invitation nous est proposée par un Rhénan, la Rhénanie de l'Allemagne. C'est Jean Toller, un dominicain. Du 14e siècle. Mais l'évangile de l'Épiphanie indique ce que les hommes cherchent Dieu. Ils le cherchent. Ils ont des signes. Tous les hommes. Et c'est normal parce que le peuple de Dieu, depuis Abraham, depuis Moïse, chaque année leur donne à chaque être humain l'absolution du futur Messie. Alors, ils sortent tous des grâces, chaque année. Et c'est pas un seul être humain qui ne reçoit pas une grâce messianique, qui se traduit en eux un désir de chercher Dieu et de percevoir sa lumière aussi. Le peuple du Christ, pendant 1300 ans, a marché comme ça, depuis Noé aussi, dans l'espérance. Ça s'est précisé avec Abraham. C'est devenu très très manifeste, quoi. Et il faut un peuple. Dieu a créé une famille sur la terre avec Abraham. Il a créé une vraie famille, mais avec la sainteté au lieu de une petite grâce de lumière régulièrement pour montrer quand même un rappel de la loi éternelle, naturelle de Dieu. Une petite lumière, une certitude que Dieu leur pardonne s'ils demandent pardon, enfin une certitude en tout cas qu'ils peuvent chercher et trouver, Dieu qui leur pardonnera, que Dieu est un père, quoi. Et ça, c'est une grâce qui vient d'une famille. Ça vient d'une famille. Abraham, c'est une famille. Et cette famille, elle se nourrit, et ce qui fait la soudure de cette famille, c'est la sainteté. La sainteté du Messie. Il faut voir, hein, c'est quand même extraordinaire. Et le Messie, c'est toujours. Non seulement il les a enveloppés, c'est vrai. Il a sorti d'Égypte, par exemple, ben, il a ouvert la mer Rouge, il était devant, il était visible, il était derrière, il enveloppait cette famille qui traversait la mer Rouge. Il était visible jour et nuit pendant 40 ans. Il parlait le Messie à Moïse. Il a donné la révélation. Et à chaque fois que dans cette famille, les gens vivaient conformément à la parole du Messie, les gens recevaient la grâce. C'était un peuple messianique, c'était le peuple de Jésus, c'est le peuple du Christ. C'est le peuple du Christ. Il faut voir ce qui se vivait. Et les gens étaient des saints. On le voit avec la Sainte Vierge. On le voit avec Saint Joseph. On va dire, mais oui, mais Saint Joseph, ça c'est une grâce vraiment de Jésus crucifié pour le coup. Mais le Messie, mais aussi, et alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Un des prophètes, de Isaïe, qui voit Jésus dans le lointain, qui le voit, qui vit de ce que Jésus va vivre plus tard. Il le voit crucifié lui-même, il vit de la passion de Jésus, et il en fait un psaume, il meurt martyr, on l'a scié avec une scie à bois. Parce qu'il vivait, le Messie vivait en lui, et lui disait tout ce qu'il vivait comme serviteur souffrant, avec le moindre détail. Et il n'y a pas qu'Isaïe, les saints, les nations d'Israël étaient investis. Les Hokmei et Talmud, les docteurs de la loi, c'était une partie des juifs qui se nourrissaient beaucoup plus que les moines aujourd'hui, de la parole de Dieu, mais qui en vivaient surtout. Quand ils communiquaient la Torah, les volontés de Dieu, et les prophètes, ils étaient resplendissants de lumière. Ils resplendissaient de lumière. Leur visage, quand ils vivaient sous le figuier, Nathanaël, par exemple, avant de rencontrer Jésus. C'était un peuple de Dieu où il y avait c'est une famille où Dieu tenait à sainteté à quiconque vivait des commandements de Dieu. Vivait des commandements de Dieu, oui, pas seulement des commandements, de la volonté de Dieu, de la présence intérieure et extérieure. La kabbot, c'est pour ça qu'il porte aujourd'hui encore. La kippa. Voilà, le petit bébé, la première chose qu'on lui demande, qu'il dit de sort de ses lèvres, c'est j'écoute Dieu, me voici pour faire ta volonté. La première fois qu'il prononce un mot à un enfant dans ce peuple de Dieu, c'est le peuple de celui qui dit me voici pour faire ta volonté. Et ce qui dit me voici pour faire ta volonté, c'est Dieu lui-même qui, dans le sein de cette famille, va prendre chair. Pour dire, me voici pour faire ta volonté, il va prendre chair, il dit, me voici pour faire ta volonté, puisqu'il n'y a aucune à pêcher ta dent, il n'y a rien à faire, il n'y a que Dieu qui peut prendre chair, et puis être la rançon, quoi, hein, et être assimilé à tout, plus nombreux que les cheveux de la tête, les péchés de chaque être humain, donc, de prendre dans chaque être, en prenant la nature humaine, le Messie va. Il va falloir qu'il le prenne de la nature humaine parce qu'il y a une porte qui est ouverte pour qu'il y ait sans voile et sans obstacle aucun la possibilité pour Dieu de rentrer dans la nature humaine. Voilà, cette famille a servi à ça, avec Marie, Joseph bien sûr, les obstacles avaient complètement disparu. Il a pris la nature humaine, mais en prenant la nature humaine, mais il a pris ma nature humaine à moi, il a pris la nature humaine d'Adam. Il a pris la nature humaine de chaque être humain qu'il a créé, qu'il va créer, qu'ils sont créés. Et à chacun, il l'a pris. Puisqu'il a pris la nature humaine, c'est quand même Dieu. Donc quand il prend la nature humaine, quand il dit chemin, me voici, la memoria dei de Christ. C'est une memoria dei qui fonctionne très très bien, si je puis dire. C'est une sainteté pleine de charité. Donc cette charité, elle attire et elle assume tous ceux qui l'aiment, donc chacun a des péchés aussi nombreux que les cheveux de la tête. Et donc il assume, et c'est un serviteur souffrant. Et puis voilà, c'est parce qu'il y a une famille. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous voulez, les gens qui étaient là-bas, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, les gens qui étaient des peuplades, qui étaient des nations, qui étaient dans les îles. Oui, en Éthiopie, en Arabie, en Allemagne, les gens qui étaient en Gaule aussi, hein, ils avaient chaque année, grâce à cette famille, comme des petites étincelles, qui venaient en fait des grandes fêtes qui se réalisaient dans le temple, et qui étaient sacramentelles, puisqu'elles réalisaient dans la nature humaine ce qu'elles signifient. Alors chaque être humain recevait une résurrection, une liberté de lumière interne, une bonne volonté, une espèce de prescience messianique, une espèce de connaissance de Dieu à travers son pardon, et ça venait de cette famille. Donc le grand mystère qui s'est réalisé, c'est que quand Dieu a pris chair de la Vierge Marie, il a attendu 8 jours, parce qu'il était... Il était sans nom, parce que tous les noms donnés par aux enfants des hommes de la terre, j'ai pénétré en lui. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Jésus que seulement au bout de 8 jours après Noël. Pendant ce temps-là, pendant 8 jours, il n'y avait pas de nom. C'était Dieu, était avec nous. Avec nous, hein, avec nous. Tout ce qui se faisait à travers la médiation de la sainteté d'une famille, à travers des saints, à travers des nations d'Israël, à travers des prophètes, une sainteté extraordinaire, laissait place à une manifestation de Dieu qui ne se faisait pas à travers la famille en question, qui se faisait avec. Avant, c'était pas la famille, mais maintenant, Dieu se manifeste avec la famille, avec Marie, Joseph, avec tous ceux qui veulent bien. Dieu s'est rendu manifeste. Et donc, quand on a touché, C'était Dieu directement, c'était Dieu directement, sans voile. Il s'est manifesté sans voile à nous. Maintenant, on peut accéder à Dieu sans aucun intermédiaire, directement et sans voile. C'est Dieu. Alors, et en plus, il donne la première goutte de son sang. Et quand il donne la première goutte de son sang, il donne aussi la dernière goutte de son sang. 36 années plus tard, les deux premières gouttes et les deux dernières gouttes sont en forme, j'allais dire, et la dernière goutte d'eau et de sang, ben c'est une goutte, je dis deux parce que le côté, quand il était mort, et on a donné le coup mortel au corps de Jésus, il sortit une goutte de sang, la dernière. Et bien, cette dernière, en fait, elle est conjointe, quelque part, à la première goutte de sang, quand on lui a donné son nom. Et l'ange avait donné son nom avant sa conception. Et l'ange a dit à Joseph, c'est toi qui lui donneras le nom de Jésus. Et à Marie aussi, Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Donc ils sont trois en un, l'ange, Joseph, Marie, avoir donné finalement à Dieu au milieu de nous, au jour, à l'instant où la première goutte de sang apparaît, son nom. Si c'est pas la dernière goutte de sang qui sort Jésus crucifié, Jésus n'a pas de nom. On ne peut pas lui donner son nom. On a donc fêté le saint nom de Jésus. Et puis tout de suite, il y a l'épiphanie. C'est les rois mages. Les rois mages, ben, ça représente l'âme humaine qui irrigue comme un seul homme, comme un seul enfant, tous les hommes de la terre. C'est comme si la nature humaine, à partir de cette goutte de sang, il y avait un ciment qui faisait qu'à l'intérieur d'elle, la messianité divine du Christ devenait l'âme de la nature humaine tout entière. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils voient l'étoile, et du coup, ils sont une leçon pour l'âme. Ce qui se passe à Épiphanie avec le roi mage, c'est une leçon sur ce que réalise, ce que peut faire, ce que fait dans la lumière une âme humaine désormais. Alors, c'est là que je vais lire ce qu'il dit quand même, Maître Eckhart. J'en tolère. Les rois mages, s'ils sont en Allemagne, on a un pape allemand depuis 2005, et puis un pape d'au-delà des mers. Et tolère, c'est un allemand. Et les rois mages, ils sont enterrés en Allemagne, à Cologne, à l'immense cathédrale de Cologne. C'est là qu'il y a le tombeau des trois rois mages. Mais il signifie quelque chose. Et grâce à eux, ils viennent se prosterner quand même. Et adorer, c'est des rois quand même. C'est des rois. Ils sont tellement imprégnés d'adoration, de prosternation vis-à-vis de la divinité du Messie qui est né, qu'ils emportent même, ils entraînent même Hérode, qui est un roi immonde, à dire, mais moi aussi je vais me prosterner avec vous devant lui. C'est pas un mensonge, c'est qu'ils sont pris, ils s'est laissé prendre par, et toute Jérusalem avec lui, par cette espèce d'extraordinaire. C'est comme si la sainteté de l'humanité entière dépassait la sainteté d'Israël. Et faisait le tour de Jérusalem et continuait, entraînait Israël, qui était la sainteté du monde, à suivre la sainteté des nations. Parce que la sainteté des nations, c'est la sainteté de la nature humaine tout entière, c'est la sainteté de Dieu qui prend chair. Et la sainteté messianique, c'est toute cette recherche, ce désir de vivre de la grâce, de vivre Messie, c'est pour devenir Dieu. Et devenir Dieu dans notre nature humaine, sans voile, c'est quand même supérieur. Alors, on va lire un petit peu ce texte de Jean Tolère. Alors, il se pose la question, mais où donc est celui qui vient de naître? Le roi des Juifs. Nous voulons l'adorer, lui rendre nos hommages. Nous voulons l'adorer et l'honorer. Nous voulons l'adorer avec de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Cela montre bien que l'âme, la nature humaine tout entière, sait bien que Dieu existe. Elle le sait. Et par une lumière naturelle, elle le sait parfaitement. Alors, si Dieu existe, qui est-il? Où est-il? Et voilà, l'âme humaine, elle le sait parfaitement, mais il y a quelque chose de complètement inconnu et caché à l'âme. Et de cela, elle ne sait absolument rien. Qui est-il? Où est-il? Où est-il? Et voici d'un seul coup que dans l'âme de la nature humaine tout entière s'éveille un désir d'amour et aimable, un désir qu'ils aiment voir découvrir en eux. Alors l'âme s'éveille, s'éveillant à ce désir. Elle cherche, elle aime ce désir, elle s'informe avec soin. L'âme humaine est une âme de bonne volonté, d'image ressemblante de Dieu, et elle aimerait tant savoir quelque chose de son Dieu qui lui reste entièrement voilé et caché. Alors elle s'applique à cette recherche. Et si elle est dans ce désir, si elle a les yeux ouverts, elle voit se lever à l'intérieur d'elle une étoile. Une vraie clarté, hein? Un rayonnement de la vie divine de Dieu, un rayonnement de la vie divine de Dieu. Et c'est une lumière vraiment divine. Hein? Parce que le mot étoile, c'est dans le ciel. C'est une lumière qui vient du ciel et qui brille à l'intérieur d'elle. Et voilà, en plus que cette lumière lui dit quelque chose de plus qui lui était entièrement caché auparavant, il indique à l'âme de l'humanité tout entière le lieu de cette naissance. Voilà, il y a une famille, il y a un corps. Qu'est-ce que tu habites? Il y a un héritage, il y a un seul corps. Il y a une seule promesse. Et donc voici que maintenant cette lumière indique à l'âme le lieu de cette naissance. Parce qu'aucune lumière naturelle ne leur avait appris où était le lieu. Mais le lieu, c'est la responsabilité, moi je dis. Le lieu, c'est la responsabilité de Marie-Joëlle transfigurée, qui à Noël en laissait sortir. On laissait naître la lumière de Dieu avec nous, présent dans notre nature humaine. C'est Dieu qui se manifeste sans voile directement. Et dans un lieu, et voilà, c'est la Sainte Famille. Parce qu'aucune lumière ne pourrait indiquer ce lieu. Alors, il pose la question à Jérusalem, où est-il donc? celui qui vient de naître, où est-il né? Là, à Jérusalem, ils ne savent pas répondre. Tu penses pas. C'est pas une grâce qui est donnée. C'est pas une grâce qui est donnée à une foi qui s'est attiédie. Ils ont toujours la foi, ils respectent les rites, etc. Où donc est-il né? Ben, il y a des personnes qui veulent, avec leur lumière naturelle, leur seule vertu de religion, goûter et toucher cette naissance. Et bien, toutes celles-là, ils apprennent des rois, mages, ils apprennent de l'âme, de la nature humaine tout entière. Notre âme apprend qu'elles doivent continuer leur route, dépasser Jérusalem et se perdre complètement. Et c'est vrai, la lumière a disparu. Mais aussitôt qu'ils sont sortis de Jérusalem, la lumière revient. Elle est là au fond d'eux, mais elle est là, toute lumineuse, elle est là, toute divine, elle est là, toute resplendissante de désir. Elle est là toute vivante. Et alors, quand ils revoient la lumière, ils sont pris d'une joie, en grec, c'est une joie très, très puissante. Une très grande joie. Une très, très grande joie. Et c'est presque ce qu'ils sont transportés. L'expression en français, on dit transporter jusque dans le lieu. Où est-il le Dieu qui se manifeste sans voile? Et il rentre dans la maison, et il voit la gloire de Marie-Joseph. Il voit la gloire de Marie-Joseph en grec, Ta Maria Kaiton Yosef, Marie dans son accomplissement en lumière. C'est-à-dire en même temps qu'elle, et en même temps que Joseph dans son accomplissement de lumière, leur était responsable d'une seule lumière transfigurante entre eux, laissant émaner Dieu rendu visible à nos yeux. Sans voile, et c'est Emmanuel. Et il le voit, Saint-Pierre Chrysologue dit, les rois mages ont vu la gloire que les bergers avaient vue, cette gloire, c'était 2 ans après. Il avait environ 2 ans, Jésus, là. Alors on peut, oui, toutes les âmes, toutes les personnes qui veulent avec leur lumière naturelle goûter cette naissance, toutes celles-là doivent rester en route, dépasser Jérusalem et se perdre. Cela ne mène à rien, en effet. On ne peut pas trouver de soi-même cette naissance. Parce que la même lumière qui a proféré le Verbe doit aussi nous révéler ce qu'elle est et où elle s'est accomplie. La même lumière qui a proféré le Verbe dans Marie et Joseph, dans la Sainte Famille, dans l'Incarnation, et bien cette même lumière doit être une révélation aussi à l'âme humaine de toute l'humanité, pour savoir où elle doit dépasser toutes les révélations et toutes les religions. Et deuxièmement, c'est encore la même lumière d'incarnation qui permet son accomplissement. C'est pour ça que c'est la première goutte de sang, et aussi la dernière goutte de sang, et aussi le corps spirituel venu d'en haut. Et à chaque fois, c'est Dieu directement manifesté sans voile. Quand cette éblouissante lumière, et ça c'est le parcours de l'âme humaine, doit passer vers ce parcours. Bien, quand cette éblouissante lumière brille dans l'âme, quand cette éblouissante lumière-là brille dans l'âme, les images, les formes disparaissent. Et là où cette lumière doit apparaître, dans ce qu'elle est, et dans son accomplissement, la lumière naturelle doit s'éclipser, s'éteindre. Et c'est pour ça qu'il continue la route en sortant de Jérusalem. Et Jésus, lui, il a fait continuer la route en même temps crucifié et en étant enterré en dehors de Jérusalem. Et parce qu'il faut aller plus loin que Jérusalem. Il faut aller plus loin que la grâce messianique, ne vive que du Christ. Il faut aller plus loin. Il faut se perdre en dehors de Jérusalem pour aller vers l'accomplissement. Vers l'accomplissement. Voilà ce que les rois mages ont expliqué, ont témoigné, si je puis dire, à Jérusalem, c'est-à-dire à la famille d'Abraham. Et ce faisant, ils sont entrés dans la foi accomplie d'Abraham, pas dans la foi naissante. Ils sont devenus les fils d'Abraham, ils sont devenus la promesse, ils sont devenus la multitude, sinon innombrables, 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 plus que les étoiles du ciel, c'est-à-dire plus que le nombre des anges. Ils sont devenus, voilà, ils sont devenus le témoignage, si je puis dire, du mystère. C'est que le Messie n'est pas fait miséricorde à Israël en apparaissant dans la chair sans voile. Mais il s'accomplit hein, dans toute la multitude des hommes, tous les peuples ont droit au même héritage, au même corps, à la même grâce que lui, puisqu'il prend chair. Et dans un troisième temps, il s'accomplit dans le sein éternel de Dieu le Père. Donc ça dépasse très loin tout. Quoi. Et c'est pour ça qu'il y a l'or, l'encens et la myrrhe. Parce que la sainteté, bien sûr, qui vient attirer la nature humaine de notre vie personnelle en elle, dans un désir d'amour éternel. Et il n'y a pas que ça, il y a le chemin. Il y a le chemin de ce que Dieu est. Il faut rentrer dans l'existence, dans le je suis de Dieu, dans l'au-delà des temps, et puis enfin jusqu'au-delà de l'au-delà des temps. Et enfin, il y a l'accomplissement. L'accomplissement, puisque c'est Dieu, et Dieu assume la nature humaine, la fait disparaître en lui, pour ça c'est pour qu'elle exalte la nature divine de Dieu dans l'éternité de la très sainte Trinité. Voilà, et c'est pour ça qu'il donne l'or, l'encens et la myrrhe. Et c'est pour ça que dans ce deuxième moment de l'incarnation de Dieu en nous, dans l'âme, qui n'est pas encore celui de l'accomplissement, mais qui va vers ce toucher final de l'accomplissement éternel, eh bien, il y a l'hostie, il y a le sang. C'est pour ça que je dis, il y a trois gouttes de sang en un, une, en trois, c'est celle de l'épiphanie, la circoncision, celle de Jésus crucifié, qui est mort depuis une heure, et celle de l'hostie. Celle de l'hostie pénètre au-delà de l'ascension, au-delà de l'ascension, au-delà de la résurrection, au-delà de l'ascension. Il y a l'agneau de Dieu, et Dieu pénètre à l'intérieur. Il reste l'agneau de Dieu éternellement, et il glorifie le Père. C'est Dieu, voilà, c'est un dernier bout de sens, ça c'est l'hostie. Ça. Et c'est pour ça que comme dit l'Église, la liturgie de la messe, la liturgie infaillible de la messe, ben, en offrant l'or, l'encens et la myrrhe, eh bien, ils offrent en fait l'or et l'encens et la myrrhe désignent, celui que ces présents révèlent, l'or. Révèle Jésus, l'encens révèle Jésus, la myrrhe Jésus, donc ils offrent Jésus dans son commencement, Jésus dans son pèlerinage jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement, et Jésus dans son accomplissement. Et l'or, l'encens et la myrrhe, pourquoi? Parce que l'or, C'est le pur amour de Dieu, directement sans voile, qui purifie tout. Alors sans, parce que il a tout donné, tout est brûlé en Jésus. Il n'y a rien qui ne soit pas entièrement brûlé par le mystère de sa croix glorieuse. Toute son humanité est complètement brûlée, anéantie. Alors du coup, ça donne une prière, ça donne un encens. Tout est brûlé, c'est une prière, un encens, qui monte jusqu'à Dieu lui-même, sans voile. C'est son holocauste brûlant. Alors c'est l'encens. Tout est brûlé. Et ça, c'est le mystère du chrétien. L'âme doit être emportée dans cet holocauste, offerte avec Jésus entièrement brûlé, et transformée en encens, un bon agréable odeur à Dieu. Et puis il est la myrrhe parce qu'il est Dieu lui-même. Quand l'union hypostatique déchirée et s'est ouverte, la myrrhe, on le sait bien, hein, c'est le parfum qui pénètre de la croix glorieuse jusque dans l'agneau de Dieu, en passant presque sans s'arrêter dans la résurrection et l'ascension. Alors c'est la myrrhe. Ah, bien sûr, on peut reconnaître la myrrhe dans Saint-Joseph. Et il voit Joseph, c'est la myrrhe, on sait bien, le pape, il a mis la myrrhe dans son blason, bien sûr. Et l'encens, c'est Jésus, c'est le Logos brûlant. Il vit de la croix dès le départ, dès le premier instant. Tout est brûlé en lui. Et l'or, c'est Marie, c'est le pur amour incarné de Dieu. Alors, bien sûr, et ce qui montre bien que Jésus n'a pas voulu s'offrir, ni être offert tout seul, il s'est offert dans la Sainte Famille. Il a absorbé Marie, il a absorbé Joseph, il a absorbé l'au-delà de l'unité des deux, il les a assumés, quoi, dans son offrande. Voilà, ça c'est la dernière goutte d'eau et de sang. Il nous a donné en nourriture sans voile. Voilà. Et si vous lisez un jour un texte de Tolère, vous saurez qu'il y aura toujours quelque chose de très 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 intéressant, très, très judicieux. Pas judicieux, mais au moins ça aide, quoi. Alors, c'est pas un truc à la périphérie, quoi. Continuer à vivre du coup de la crèche. Les crèches restent dans les maisons jusqu'à tout le mois de janvier. Hein, jusqu'au 2 février. C'est normal parce que le mois de janvier, c'est le mois de la naissance de Jésus, le mois de l'enfance, de la sainte enfance, de la sainte enfance de Jésus. Alors, il y a son baptême, il y a son épiphanie, il y a la conversion des nations. Voilà, et le 2 février, c'est la présentation de Jésus au temple. Tout ça, ça va s'épanouir dans la présentation de Jésus enfant. Voilà, le 2 février, il est présenté dans le temple, il est offert. Comme un petit enfant. Voilà. C'est dans la loi de Moïse, et ça, c'est comme ça. Et lui, il respecte tous les préceptes de la loi, il les assume. D'ailleurs, il les a donnés à la terre, parce que c'est lui qui devait les assumer. Hein, vous mettez comme ça, du 25, c'est 40 jours après, hein, un petit enfant d'Israël. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il peut commenter, à dire 40 jours, je sais pas. Alors, au bout de 40 jours, on le présente dans le temple. Il est présenté à Dieu. Donc Noël 25 décembre plus 40 jours, ça fait 2 février. l'occasion ce mois-ci de se glisser comme en descendant dans un toboggan merveilleux de désirs très très aimables à l'intérieur de l'enfance de Jésus pour être offert avec lui comme de l'or, comme un amour extrêmement pur, comme de l'encens en étant un parfum d'agréable odeur pour l'éternité de Dieu, et la mienne en étant l'Eucharistie du monde nouveau, notre âme, au lieu que ce soit une âme qui irrigue le corps, c'est l'Eucharistie du monde nouveau qui irrigue notre corps et le corps tout entier de l'humanité et le corps de Dieu. On glisse merveilleusement dans l'enfance de Jésus. Et on devient un espèce d'enfant qui ne cesse de grandir comme ça dans la Sainte Famille du monde nouveau. Il faut découvrir ce que c'est que la spiritualité de l'épiphanie, mais dans le monde nouveau, du cinquième saut de l'Apocalypse. C'est très important de comprendre ça. On s'y écoule merveilleusement. On en fait partie, on y est emporté. Dans le mélange de l'or, de l'encens et de la myrrhe, il n'y a plus aucun péché. Il n'y a pas l'ombre d'une ténèbre à aucun moment et jusqu'à la fin, dans la sainteté de l'hostie, mais qui a saisi, envahi et fait surabonder ma vie d'enfance, l'engendrée de Dieu, et avec mon corps spirituel. Et donc je ne suis plus atteint. Je suis plus atteint par la chair. Et ça, c'est une épiphanie, ça. Ça dépasse la sainteté des étoiles. C'est la sainteté du soleil. Et on dit oui, me voici. Et on s'y écoule.